France Inter, le 18-20.
On nous dit depuis 3 ans maintenant qu'on vit sous la menace, on nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec, on nous dit d'être vigilant mais de continuer à vivre et nous on répond bah, bien sûr, évidemment, mais au fond on ne veut pas s'habituer, c'est peut-être pour ça que les débats tournent et retournent autour des mêmes sujets comme si une solution allait sortir comme du chapeau d'un magicien, c'est sans doute pour ça que les disputes politiques ont comme un goût de déjà vu et qu'on ne s'étonne même plus finalement de l'absence de trêve politique, même si à l'Assemblée nationale cet après-midi, au moins chacun a su rester courtois. Au fond on ne veut pas s'habituer. C'est peut-être ça aussi, c'est sans doute pour ça qu'il est si important ce lieutenant-colonel Beltrame à qui un hommage national sera justement rendu demain, si important que l'on s'accroche à la figure du héros qui nous rassure aussi sur nous-mêmes, la société que nous sommes et que nous voulons avoir quand la période est difficile. Mais est-ce qu'on a tout dit quand on enlève les polémiques politiciennes stériles? Est-ce qu'on a tout dit sur les services de renseignement, sur les méthodes de travail dans un environnement d'islam radical que l'on redécouvre chaque jour? Est-ce qu'on a tout dit sur le casse-tête de la radicalisation? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On en parle ensemble ce soir. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Jean-Louis, c'est vous qui commencez ce soir. Soyez le bienvenu au téléphone sonne, on vous écoute.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais savoir tout simplement ce que voulait dire le terme fichier S, disons, et en quoi ça correspondait, parce que j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose de très flou dans l'esprit des gens et qu'on met beaucoup de choses derrière.
Et vous avez bien raison Jean-Louis, c'est toujours bien de remettre les choses au clair, c'est ce qu'on va essayer de faire toute cette soirée dans le téléphone sonne. Je voudrais vous le dire avant, nous sommes en partenariat avec France 2 ce soir qui, demain soir, jour d'hommage national au lieutenant-colonel Beltrame, propose à 22h35 une nouvelle émission, ça s'appelle Question Directe et c'est présenté par Julien Bugier, notre partenaire donc ce soir. Pour répondre à votre question Jean-Louis, et à toutes les questions d'ailleurs qui viendront jusqu'à 20h, Christophe Rouget est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes commandant de police, membre du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Bonsoir Joachim Peillot. Vous êtes député Nouvelle Gauche, ancien directeur de prison. Marc Ecker est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, directeur de publication et rédacteur en chef de Politique étrangère. Et puis Charlotte Piré est là également autour de la table. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service enquête et justice. Il a raison, on va commencer avec vous Christophe Rouget, si vous le voulez bien. Il a raison Jean-Louis. On dit beaucoup de choses, on dit un peu tout et n'importe quoi en fait autour des fiches S. Est-ce qu'on peut résumer très facilement à quoi ça correspond réellement et surtout la conséquence pour celui qui est fiché S, c'est quoi?
La fiche S, il a raison, elle génère tous les fantasmes. Et ces fantasmes, ils sont notamment abondés par des hommes politiques qui font une surenchère parfois à certains hommes politiques populistes et qui mélangent un petit peu tout. La fiche S, c'est très simple. C'est une fiche qui permet de surveiller discrètement un individu pour recueillir des informations sur lui. Il n'y a pas de niveau dans le cadre de la fiche S. C'est uniquement des conduites à tenir. C'est-à-dire que le service de renseignement met cette personne sur le fichier des personnes recherchées, où sont listées toutes les personnes recherchées. Et lorsque le gardien de la paix à l'aéroport ou sur la voie publique va contrôler cette personne, ça va sonner. Il va voir cette personne a une fiche et il aura une conduite à tenir. Cette conduite à tenir, il y a 11 situations différentes et elle va lui dire relevez l'identité, prenez l'identité des personnes qui sont dans la voiture avec lui, dites à la douane de le contrôler. C'est uniquement des conduites à tenir pour les gens qui sont sur le terrain, qui ensuite feront un rapport, qui transmettront au service de renseignement.
Mais quand on parle, par exemple, du terroriste qui nous occupe en ce moment, dont on disait qu'il était suivi, et même suivi depuis le mois de mars, ça veut dire quoi, là, pour le coup? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un derrière lui?
Non, c'est impossible aujourd'hui. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont aujourd'hui font l'objet de surveillance. Il y a 19 000 personnes qui sont sur le fichier des personnes radicalisées. Donc aujourd'hui, ça veut dire que un service qui a détecté quelqu'un, qui a des informations, va essayer de transformer ces informations en renseignements. Comment? En faisant par exemple des surveillances sur le terrain, en allant voir son employeur, en allant voir des personnes de son entourage, en mettant une surveillance vidéo. Toutes ces informations, il va les recueillir pour essayer ensuite de présenter cet individu, si jamais il s'apprête à commettre un délit, un crime, devant un magistrat. Voilà le but de la surveillance des services de renseignement. Judiciariser cet individu, s'il est dangereux, et qui va commettre un acte terroriste.
Charlotte Pirel.
Pour rebondir également sur les amalgames qui sont faits autour de la fiche S, il y a également l'idée souvent que fichier S signifie radicaliser. C'est pas le cas de tous les fichiers S. C'est le cas de l'immense majorité, effectivement. La plupart le sont pour des signes de radicalisation, mais c'est pas le tout. On se souvient des zadistes. Nombre d'entre eux étaient également fichés S.
Quand on dit, Marc Ecker, que celui-ci était convoqué par la DGSI, c'est peut-être d'ailleurs l'une des choses qui a provoqué, qui a pu provoquer quelque chose, c'est lui. Ça veut dire quoi, convoqué par la DGSI? Est-ce que c'est fréquent ou au contraire, plutôt rare en fait, que ce genre de personnage soit convoqué?
Très honnêtement, je ne sais pas. Il faut demander ça aux praticiens, aux policiers qui a déjà parlé, effectivement. Moi, j'aimerais juste ajouter un élément.
Allez-y.
On entend beaucoup parler de plusieurs fichiers. Effectivement, il ne faut pas confondre les fiches S et le FSPRT, dont on entend souvent parler, qui est le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et ce fichier, qui a été créé en fait en 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, contient aujourd'hui à peu près 20 000 fiches. Et toutes ne sont pas actives, avec des niveaux de radicalisation extrêmement différents. Donc du début du stade de la radicalisation à celui qui est beaucoup plus proche du passage à l'acte. Et toute la difficulté qu'on a avec ce phénomène, c'est qu'on n'arrive pas à analyser un continuum entre la radicalisation et le passage à l'acte terroriste. Et parfois, vous avez des personnes qui ont l'air d'être à un début de stade, mais qui peuvent passer à l'acte très rapidement.
Et c'est là effectivement que peut-être le bât blesse, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression qu'on sait suivre. En effet, c'est ce que nous a raconté Christophe Rouget. On sait identifier, on sait qui ces gens-là, mais on ne sait pas. Et alors, est-ce que c'est possible? On ne sait pas identifier le moment où l'un d'eux passera à l'acte, Marc Ecker.
Non, on voit en revanche qu'il y a, chez les personnes qui sont passées à l'acte, qui ont été condamnées pour terrorisme, des facteurs qui sont quand même très récurrents. Le passé criminel est un élément très récurrent. Le faible niveau d'éducation est très récurrent. La faible employabilité est aussi très récurrente. Et on constate aussi que le facteur migratoire est souvent très présent avec des jeunes de la deuxième génération. Donc, on a ces éléments, mais évidemment, on ne peut pas dire que toutes les personnes qui correspondent à ces catégories vont devenir terroristes. Au contraire, c'est qu'une petite minorité. Et on n'a pas effectivement pour le moment de baguette magique qui nous permettrait de détecter un terroriste dans un fichier de personnes radicalisées.
Joachim Peuillot, qu'il les connaissait, vous les avez, côtoyés, n'exagérons rien, en prison, mais effectivement, vous côtoyez, voir l'instant du passage à l'acte, le moment du passage à l'acte, celui qui est mûr pour le passage à l'acte, est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment impossible, en fait?
C'est difficile, parce que si c'était, on l'a vu dans les récents attentats, regardez à Nice, est-ce qu'on pouvait prévoir la tuerie de Nice, le Bataclan, c'est un peu encore différent, et effectivement, on a quand même des critères. Je pense qu'il suffit de regarder et d'étudier d'ailleurs tous les profils qui ont commis des attentats. Ils ont des points de similitude. Petite délinquance ou moyenne délinquance. Ce sont des personnes qui ont été en prison à plusieurs reprises. Donc, je pense à Koulibaly, par exemple, qui était à Fleury-Mérogis, ou au frère Kouachi. Donc, port d'armes, quelquefois des violences, quelquefois des trafics. Mais tous ceux qui ont ce profil-là ne vont pas devenir forcément des djihadistes. Et je pense que c'est difficile. Cependant, on a quand même pris des dispositions au niveau du Parlement. On a voté à plusieurs reprises des lois pour renforcer le renseignement qui est essentiel. Le renseignement territorial sera, à mon avis, plus important. Je crois qu'il faut encore renforcer au plus près les observations. Et puis je pense aussi, si vous voulez, que ces actes, ce djihadisme, est l'affaire de la société. Et je pense qu'il faut mieux travailler sur le terrain ensemble. C'est pas uniquement l'affaire des policiers. Certes, il y a des renseignements, on les exploite, on prend des mesures, mais il y a une conscience qui doit être faite, elle est faite. Mais je suis allé dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire où j'étais secrétaire, nous sommes allés au Danemark qui avait été confronté par des attentats. Et je me suis rendu compte que dans ce pays-là, tout le corps social travaille mieux qu'en France. Il n'y a pas de cloisonnement.
Mais qu'est-ce qu'il y a des informations qu'on ne sait pas faire, nous? On donne toujours l'exemple des pays du Nord.
Il y a des informations qui circulent entre, par exemple, la police, entre le corps social, entre le monde éducatif, sur des individus qui ont des attitudes qui ont terriblement évolué et on pourrait penser qu'ils sont en train de se radicaliser. Ils peuvent effectivement offrir de la dangerosité. Et puis le problème de fond, c'est comment empêcher que cette doctrine puisse faire contagion. Parce que on a dit effectivement que Daesh est en difficulté en Syrie, en Irak, ce qui est vrai. Puisque l'objectif c'était de créer effectivement un califat, mais ce que je crains c'est qu'on va faire un califat mental, c'est-à-dire qu'on va dissimer dans notre société effectivement cette doctrine, et ça c'est un combat qui doit mener d'une manière très précise, parce que c'est le fond du problème. Comment se fait-il que des jeunes ont été radicalisés, ont adhéré à cette doctrine qui est quand même mortifère et qui est quand même dangereuse pour notre société, pour nos valeurs républicaines, pour notre civilisation aussi. Je crois qu'il faut le dire également.
Et on va y revenir bien sûr d'ici à 20h. Vous vouliez intervenir, Marc Ecker.
Oui, un tout petit mot sur les modèles nordiques et en particulier le modèle danois dont on parle énormément et qui maintenant sert ouvertement de source d'inspiration pour le modèle français, puisqu'il a été évoqué au moment de la présentation du dernier plan national de prévention de la radicalisation. Ils ne sont pas du tout confrontés à un phénomène de la même ampleur. Donc on ne parle pas de la même chose concrètement, c'est vraiment très différent de gérer quelques dizaines d'individus et quelques milliers d'individus. Et deux, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. Et notamment quand ils mettent en place des suivis individualisés avec des mentors, etc. Nous, vu l'ampleur du phénomène, on ne pourrait pas faire ça. Et vu également l'état de nos finances publiques.
Mais il faut dire aussi qu'il y a des choses marchent en France, parce que le Premier ministre le rappelait devant l'Assemblée cet après-midi encore, on déjoue des attentats régulièrement en France. Il y a des individus qui sont jugés devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs terroristes avant d'être passé à l'acte quasiment tous les jours. Donc on voit effectivement, et c'est évidemment très malheureux, les attentats qui aboutissent, mais il y en a aussi beaucoup d'individus qui on arrive à détecter avant ce fameux passage à l'acte.
Christophe Rouget, j'avais une question sur l'élève tout à l'heure et puis on est passé sur autre chose. Cette convocation à la DGSI, ça veut dire quoi pour un homme qui est fiché S? Est-ce que c'est très courant ou pas?
Oui, c'est courant. Okay. Ça a été mis en place. Pourquoi ? Parce qu'on a ce problème de flux. Comme vous le disiez, c'est notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on a des milliers de personnes dont on doit s'occuper. Au bout d'un moment, lorsque ces services de renseignement, ils ont fait des recherches, ils ont regardé les fichiers, ils ont vu les personnes de l'entourage, et qu'on n'arrive pas à montrer que cette personne va commettre un acte terroriste, va faire du prosélytisme pour Daesh, à ce moment-là, comme on n'arrive pas à mettre cette personne devant la justice, à l'envoyer devant la justice, on est un peu à bout de course, donc on va faire venir cette personne pour faire le point avec elle, voir s'il faut continuer à la surveiller, voir quelle dangerosité elle peut représenter. Donc c'est un stade qu'on va utiliser, parce que peut-être la personne, une fois qu'elle sera venue d'un service de police, va dire, oula, maintenant je suis connu la police, je ne ferai plus rien. Peut-être elle voudra passer au l'acte aussi.
C'est ça, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça réveille quelque chose et que dans sa tête ça dit, oulala, je suis vraiment dans les radars là, donc c'est maintenant ou jamais?
Et c'est pour cette raison qu'il faut, je crois, on n'a pas cette politique en France, évaluer toutes les lois qui ont été votées, évaluer tous les process qui sont mis en place par les services de renseignement pour savoir ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace. Et ça, en France, pour l'instant, ne le fait pas. Je crois que c'est nécessaire de dire, ben voilà, dans cette situation, on a connu ça, qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'il faut écouter les professionnels, les chercheurs, les policiers, les magistrats, pour avoir les bons dispositifs.
Et alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous, Christophe Rouget, vous, le policier, le gars de terrain, est-ce que c'est ça qui manque, justement? Est-ce que c'est le moment de la cage d'escalier, finalement? Parce que on sait le suivre, on sait l'identifier, on sait qui est ce monsieur, on sait le convoquer, on sait le mettre dans les radars. Et puis, il y a le pif, quoi. Celui qui sent dans les quartiers que peut-être il est en train de se passer quelque chose, etc. Est-ce que ça manque, ça? Est-ce que vous avez l'impression que l'une des clés, c'est là qu'elle est?
Bien sûr, une des clés, elle est sûre. Un bon maillage territorial, des services de renseignement qui avaient été cassés en 2008, qu'on a mis du temps à reconstituer. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait... Alors, il faut des analystes, toujours, pour étudier tous ces dispositifs. Mais si on veut détecter la personne, si on veut la suivre, il faut un bon maillage de terrain. Il faut des policiers qui puissent intervenir sur place pour recueillir des informations. Et ensuite, j'allais dire, il faut quand même des bons outils. Et aujourd'hui, le président, par exemple, a parlé de dette technologique de la police, mais on a la plateforme des écoutes des interceptions judiciaires, la PNIJ, qui ne fonctionne pas. Les enquêteurs, aujourd'hui, n'ont pas les conditions pour faire des bonnes enquêtes. Et par exemple, leur logiciel, celui où font les procès-verbaux, ça coûte des millions d'heures. Ça ne marche pas. On nous dit peut-être en 2020, il va être efficace. Sauf que c'est des millions d'heures perdues au détriment de la surveillance sur le terrain. Et le plus important, c'est la procédure pénale. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en France a conscience qu'il faut alléger la procédure pénale, parce qu'on a des milliers de fonctionnaires, de policiers, gendarmes qui sont utilisés pour faire cette procédure, au détriment de la présence sur le terrain. Et pour l'instant, ce qu'on nous propose va pas assez loin.
Joachim Pueyu, avant de retourner au standard.
Oui, sur le renseignement territorial, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on a démantelé, enfin on a affaibli les renseignements. Auparavant, il y avait les renseignements généraux qui n'avaient pas forcément une bonne presse. Donc on a fait une réforme. Mais la réforme a été trop loin, puisqu'on a quasiment divisé par deux, voire par trois les effectifs au niveau des renseignements dans chaque département. Moi, je suis originaire d'un département semi-rural, et bien effectivement, il y avait très peu de policiers qui étaient affectés au service des renseignements. Et par conséquent, ils ne connaissent pas forcément. Vous vous rendez compte que dans la ville où j'étais, il y avait quelqu'un qui se réclame de voix de Daesh. Bon, c'était quand même assez grave. Et donc, il faut absolument renforcer les renseignements sur les territoires de façon à pouvoir repérer et puis notamment suivre les individus qui peuvent être dangereux. Alors, c'est vrai que 2008 a été une mauvaise année. Je pense que l'ancien gouvernement, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même reconstitué et reconsidéré les renseignements territoriaux en renforçant les effectifs, en renforçant également les budgets. Il faut continuer, bien évidemment, à faire ce travail parce que ça me paraît nécessaire et ça me paraît important. Et puis, il y a un autre travail à faire. Ça, c'est sur un autre niveau. C'est le volet, bien sûr, prévention qui doit être vraiment prise en compte d'une manière très, très précise. Et là, on a beaucoup de travail. Et puis, moi, je le dis également parce qu'il y a responsable de l'IFRI. La recherche est fondamentale. Et nous, les élus, les politiques, on a besoin d'analyse des chercheurs pour bien nous orienter et qu'on prenne les meilleures décisions possibles.
Charlotte Piret, très vite, vous vouliez intervenir et on retourne au standard.
Peut-être juste sur le retour d'expérience, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce qui s'est passé dans l'eau de vendredi qui font écho au parcours de Mohamed Merah, par exemple. On a vu qu'il avait également été détecté, on a vu qu'il était également, il avait été convoqué par la DGSI, etc. Et on a vu cela nous a mené. Ça a été largement évoqué lors du procès Merah qui a eu lieu en octobre et novembre dernier. Et malheureusement, toutes les conséquences n'ont pas forcément été tirées de cette expérience.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir à tous.
Soyez la bienvenue sur Inter, Myriam, on vous écoute.
Merci. Je suis très émue parce que très en colère depuis les premiers attentats qui sont survenus sur notre territoire. Je tiens à préciser que je suis née en Algérie il y a 72 ans, que je suis arrivée ici par idéal lorsque j'ai su que mon pays ne serait jamais une démocratie. Donc j'aime la France. J'y ai fondé une famille. Et je suis en colère contre les médias qui, à chaque attentat, ne cessent de renommer le nom du terroriste, si bien qu'à la fin, au bout du compte, on en oublie les victimes. Qui se souvient d'Imad Ibn Ziyaten s'il n'y avait pas sa maman qui était partie sur toutes les routes de France à l'étranger entretenir sa mémoire? Qui se souvient du caporal Abel Chenouf, du Mohamed Le Gouad à Toulouse, Jonathan Sandler, ses deux fils, Arié et Gabriel, Myriam Monsodego, ce petit bébé qui avait une sucette, encore une tétine dans la bouche. Alors je voudrais vous adresser une supplique, bien que je sois athée. Pitié, ne les nommez pas. Ce sera une façon de les enterrer vivants.
On a entendu votre message, Myriam, et on va y revenir. Moi, j'ai l'impression aussi que le nom qu'on retient particulièrement après cette séquence dramatique de vendredi, c'est surtout celui du lieutenant-colonel Beltrame aussi, dont un hommage national lui sera rendu demain. Je pense que, précisément d'ailleurs, peut-être que cette séquence-là a ce site particulier qu'il y a cet homme derrière, Marc Ecker, c'est important. C'est important pour nous, je dis nous, très collectivement, en fait, qui est cette figure, en fait, qui émerge de cette séquence.
La figure du héros qui émerge, et on voit bien aussi qu'au niveau politique, on essaye de se saisir de cette figure pour essayer de recréer un peu d'union nationale et d'union républicaine. Ceci étant, je trouve, pour ma part, qu'on parle aussi beaucoup des victimes. Donc je comprends ce témoignage, mais en même temps, il y a des commémorations régulières, on évoque le nom des victimes. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir quand même sur le fait de nommer ou pas les terroristes. Moi, comme chercheur, il m'est arrivé déjà de ne pas nommer les terroristes pour des articles de recherche. Et au moment de publier, on me demandait de les nommer. Or, ça n'apporte pas forcément grand-chose d'avoir le nom de famille d'une personne. Et c'est vrai qu'on court le risque de transformer cette personne, paradoxalement, en héros. Parce que dans certains quartiers, il est vrai que les terroristes sont des héros.
Charlotte, c'est un débat qu'on a, nous, dans les rédactions.
C'est tout à fait vrai,
aussi,
le cas de Mohamed Merah. Alors, je le nomme évidemment de nouveau, mais qu'on évoquait à l'instant, est encore aujourd'hui une immense référence pour de nombreux jeunes qui embrassent ces thèses, malheureusement. Et c'est vrai que se pose également la question des victimes. Et si, alors, je m'inscris un petit peu en défaut avec notre auditrice, je pense qu'on a beaucoup parlé des victimes de Mohamed Merah en l'occurrence, notamment lors de la couverture du procès. Mais ça va être beaucoup plus compliqué quand on va parler de l'attentat de Nice, quand on va parler de celui du 13 novembre, parce que malheureusement, les victimes sont très nombreuses et qu'on ne peut plus les individualiser de la même manière qu'on a pu individualiser les autres. C'est vrai que c'est une problématique et c'est vrai que c'est des questions qui se posent dans les rédactions. Maintenant, il y a un besoin aussi juste d'information et de clarté et de savoir que quand on parle de quelqu'un, on parle de celui-là, malheureusement, et que la meilleure façon encore de le dire, c'est de lui donner son, de le nommer, tout simplement.
Et c'est vrai que ce débat existe. Je voudrais quand même dire, de la part de nos amis de la presse écrite, qu'ils ont fait ce travail, en fait, notamment dans Le Monde, mais pas seulement, en ayant un portrait de chacune des victimes, notamment après le Bataclan, et pas seulement le portrait, pas seulement le nom d'ailleurs, mais aussi toute l'histoire qu'il pouvait y avoir derrière. Mais effectivement, ce sont des questions qui se posent, qui se reposeront forcément et qu'on n'élude pas non plus, vous avez raison Myriam, dans les rédactions. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Richard, on vous écoute.
Merci. Bah écoutez, en fait, moi c'est une remarque, hein, et puis peut-être une question. D'abord, en fait, je crois que le titre de votre émission, c'est « Quelle solution ?» Alors, c'est pas au pluriel, enfin, c'est nécessairement pas au singulier, mais au pluriel. Mais en tout cas, parmi les solutions, moi je voudrais faire un constat, c'est qu'effectivement, donc ces jeunes de banlieue, parce que c'est souvent effectivement donc des jeunes qui se radicalisent, sont souvent effectivement donc des jeunes de banlieue qui ont peu accès en fait à l'éducation et qui sont effectivement donc depuis des générations ghettoisées dans des banlieues désargentées dans lesquelles effectivement l'éducation n'est pas présente, et on trouve en fait assez peu de radicalisation islamiste dans le 8e arrondissement, dans le 16e arrondissement, voire à Passy hein, quand même. Donc moi je voudrais quand même mettre le point en fait là-dessus, et que en fait on fait quand même partie d'un pays en France où on enregistre effectivement le plus grand nombre de milliardaires, où il y a de l'argent et où on pourrait effectivement quand même résoudre ces problèmes, je dis pas facilement, mais en tout cas on pourrait au moins essayer de les résoudre, et en fait on fait absolument rien pour ça. Je ne dis pas que ceci excuse cela, je suis pas du tout en train de dire que c'est parce qu'effectivement donc en fait ils vivent dans des banlieues défavorisées qui sont qu'on peut excuser le fait qu'ils se radicalisent, mais je dis qu'en tout cas ça peut en être une cause, et comme toutes les causes en fait on peut effectivement essayer de l'attaquer, et en fait l'attaquer ça nécessite des moyens, les moyens on les a, et je pense effectivement aujourd'hui que les gouvernements successifs qui se sont succédés n'ont pas mis les moyens pour faire ça.
Merci voilà. Beaucoup pour ces remarques, Richard, auxquelles on va répondre. Joachim Peilleux, je vous voyais réagir à la remarque de Richard.
Oui, parce que ce genre de discours, je l'ai déjà entendu. Dans les quartiers, bien sûr, la ghettoisation peut être un facteur. Mais n'empêche que l'école en France, elle est obligatoire. Il y a des écoles partout, il y a des collèges partout, il y a des lycées partout. Moi je suis issu d'une ville moyenne, il y a des quartiers, on n'a jamais mis autant de moyens dans les quartiers prioritaires en termes d'accès à l'éducation, en termes d'organisation des centres sociaux, des loisirs pour les jeunes, beaucoup plus d'ailleurs que des jeunes qui sont au même niveau de pauvreté en milieu rural. Dans la ruralité, il y a des jeunes effectivement qui sont en difficulté, et en plus ils ont des problèmes de mobilité, de déplacement. Ils ont, pas pour autant se convertir dans une doctrine telle qu'on la voit actuellement, Et donc au 19e siècle, il y avait beaucoup de pauvreté également en France. Il y avait des syndicats, il y avait des mouvements populaires, il y avait des émeutes quelquefois sur le plan social, mais c'est pas pour autant qu'on faisait des attentats. Donc je pense qu'il faut pas mélanger les deux choses. Alors par contre, qu'il y ait des terreaux effectivement, comme la prison, comme les quartiers où il y a un rassemblement, j'en conviens, très bien. Mais je veux dire, franchement, dans un pays comme la France, où la protection sociale est une des plus importantes protections en Europe, voire au monde, où effectivement on a beaucoup d'étrangers qui veulent venir vivre en France pour différents motifs, je crois qu'il faut arrêter quand même de toujours montrer du doigt notre système. Par contre, il est perfectible. C'est vrai qu'il y a trop d'inégalités, mais je crois qu'il ne faut pas donner ça comme motif du passage à l'acte ou d'une contagion par rapport... ce qui est important, c'est la doctrine. Je crois qu'il faut parler, par exemple, du salafisme. On n'en parle pas suffisamment. On a effectivement des endroits où on endoctrine les jeunes. Et je crois qu'il faut faire attention. Auparavant, dans toutes les villes, il y avait les amicales laïques. Il y avait des fédérations laïques. On a enlevé leur financement. La laïcité, maintenant, c'est difficile. Donc, il y a un sujet au niveau des valeurs. Je pense que c'est le message que je voulais dire.
Marc Ecker, que dit le chercheur justement
évidemment,
sur tout ça ?
Évidemment, on ne peut pas réduire le terrorisme à un problème social, et des difficultés sociales ne peuvent pas justifier, encore moins excuser un basculement dans le terrorisme. Une fois qu'on a dit ça, on constate quand même qu'il y a une offre de radicalité qui émane aujourd'hui de Daesh et d'Al-Qaïda. ou de groupes qui sont liés, qui bénéficient d'un terreau particulier. Ça, on ne peut pas le nier. Quand on voit les profils, ce dont on parlait avant, on voit quand même qu'il y a des profils récurrents. Et moi, j'ai assisté à plusieurs procès. Vous avez des jeunes qui passent devant les juges et qui... à un moment donné, ont décroché scolairement, au collège très souvent, qui ont raté leur brevet et qui ne réussissent plus, qui patinent. Alors, au bout d'un moment, effectivement, ils rencontrent cette offre de radicalité qui les séduit. C'est évidemment multifactoriel et vous avez l'aspect idéologique qui intervient. Mais si on avait des meilleures conditions économiques, sociales, il est évident que ça aiderait.
Charlotte Piret.
Et c'est vrai, mais pas seulement, parce qu'on voit aussi, vous parlez des procès, on a vu certains procès, je pense par exemple à celui de la filière de Cannes-Torcy, on a vu des jeunes du 8e arrondissement justement, comme le citait notre auditeur, qui sont
on
là.
Jeune.
Oui, mais on a vu défiler des parents à la fois de classe...
Cannes-Torcy, je suis désolée, mais c'est la moitié des accusés sont des anciens criminels.
Certes, mais on voit aussi des jeunes filles de classe moyenne qui rejoignent Daesh du jour au lendemain, c'est aussi des profils qui existent. Je ne dis pas qu'ils sont la majorité, je dis juste qu'ils existent et qu'il ne faut pas non plus faire un amalgame de généralisation. Parce que ça arrive aussi dans certaines classes moyennes ou chez des parents, avec des parents CSP+, pour parler jargon économique.
Ça arrive, mais je pense qu'il y a un point vraiment important là-dessus. On a trop entendu, il n'y a pas de profil type. Et en fait, je comprends pourquoi on dit ça, parce qu'on ne veut pas stigmatiser, on ne veut pas amalgamer, etc. Mais en fait, à force de se focaliser vraiment sur l'arbre qui cache la forêt,
il n'y a pas de profil type sur les radicalisés, en fait. Après, pour le passage à l'acte, c'est peut-être autre chose.
Le profil est beaucoup plus clair, exactement.
Il y a une sorte d'entonnoir au moment du passage à l'acte.
Il y a un entonnoir. Parce que quand on a une socialisation préalable à la violence, eh ben on est plus enclin à passer ensuite à l'acte dans la violence terroriste. Ça paraît évident, mais enfin, ça va mieux quand on le dit. Et ça, c'est quand même important à noter, parce que sans amalgamer, encore une fois, c'est pas le propos. Si on fait un diagnostic clair, ensuite, on pourra beaucoup mieux prévenir la radicalisation, on pourra beaucoup mieux prévenir le passage à l'acte en menant des actions ciblées. Alors en France, on ne veut pas cibler des communautés comme on le fait au Royaume-Uni avec le programme Prevent, mais on peut très bien mener des actions données sur un quartier précis où on a vu qu'il y a plus de départs, par exemple. Ou quand on voit qu'il y a un problème de chômage à un endroit donné et que dans cet endroit donné, il y a des passages à l'acte terroriste, on peut aussi mener des actions de prévention avec le pôle emploi local. Il y a des choses à faire.
Christophe Rouget, sur ces questions-là, et les pôles de radicalisation, j'allais dire, qui existent dans certains lieux, que vous voyez, vous, forcément, la police?
Bien sûr, les services de renseignement, ils ont détecté tous les pôles. Et ouais. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des individus qui ont marqué djihadistes sous le panneau de la ville de Toulouse. Et bien voilà, c'est un pôle de radicalisation, comme Alès, comme d'autres villes. Donc on sait parfaitement les identifier, et on ne fait pas, je pense, ce travail, effectivement, pour cibler ces quartiers. Pour quelles raisons on arrive là? Parce que quand même, là, sur le territoire, il y a de grosses différences. Et je crois qu'on a besoin d'un travail chirurgical pour intervenir dans ces quartiers, pour lutter contre la radicalisation. Et là, la police et les services de renseignement ne pourront pas tout faire. On voit très bien les terreaux, ils sont identifiés. On sait très bien que le salafisme joue un rôle majeur dans cette radicalisation et dans le passage à l'acte. Dans la plupart des profils qui sont identifiés, le salafisme intervient. Et donc je crois qu'on ne peut pas l'interdire, on ne peut pas interdire les idées.
Voilà, j'allais dire,
mais il faut bien, à un moment donné, qu'on lutte aussi contre cela, parce que la police et la gendarmerie ne pourront pas lutter contre des milliers d'individus radicalisés. Ça ne sera jamais possible. On fera tout notre possible, on va continuer à s'améliorer. Mais si on ne travaille pas sur le fond, qu'on ne trouve pas la source, on aura toujours de plus en plus de personnes à surveiller, et on sait très bien que ce n'est pas possible.
Mais alors concrètement, parce que ça fait partie de la loi, d'ailleurs la toute récente, celle de octobre 2017, est-ce que ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas assez de fermeture de lieux de culte, par exemple? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, ou pas?
Non,
c'est
pas...
Non. Joachim Peillot.
La loi prévoit les fermetures des lieux de culte lorsque, effectivement, on a des éléments qui démontrent qu'il y a une propagande violente qui est mise en place. Mais je crois que la plupart des mosquées, c'est pas ça. Donc, il faut pas non plus. Moi, je pense que la loi était une bonne chose. Je crois qu'il fallait qu'on sorte de l'état d'urgence et qu'il fallait mettre dans le droit commun des dispositions qui permettaient effectivement aux services de police d'avoir des moyens. Et je trouve que la loi est plutôt bonne parce qu'elle permet, elle remet également le magistrat au cœur du système. Si ça avait fait l'objet de nombreux amendements. Donc, On va pas, honnêtement, revenir sur l'état d'urgence. Il y en a qui le réclament. Mais malheureusement, quand on était en état d'urgence, on a eu également des attentats. Comme sur les fichiers S, ça a été effectivement une évolution. Ça a été mis en place en 2015. Ça a été plutôt positif. Mmh. Mais on se rend compte quand même qu'on n'a pas détecté tout le monde. D'ailleurs, les 60% des auteurs d'attentats n'étaient pas fichés. Donc, et moi, je pense que le problème de fond, c'est cette doctrine. Et vous pouvez en discuter avec des laïcs, avec des chrétiens...
C'est pour ça que
vous
posez la question des lieux de culte, parce qu'à un moment, elle arrive de quelque part.
Et moi, je pense qu'il faut absolument que tous ceux qui croient ou qui ne croient pas prennent conscience que cette doctrine, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour notre équilibre, et pas qu'en France, d'ailleurs.
Et on en revient
dans tous les pays qui sont confrontés par cette doctrine, parce que on parle de la France, mais il n'y a pas que l'Europe. Vous avez des pays également qui sont confrontés, comme la Tunisie, par exemple, qui ont eu des attentats également. Je ne parle pas de l'Égypte, mais vous voyez, donc c'est pas uniquement que l'Europe. C'est une doctrine qui est très dangereuse pour les États.
Et on en revient à la question de l'auditeur. Alors effectivement, et c'est vous d'ailleurs qui le disiez, on peut pas interdire une croyance. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est par les idées qu'on combat ce genre de choses. Est-ce que il y a sur le terrain suffisamment de gens, je ne sais pas, Christophe Rouget ou Marc Ecker, qui permettent de lutter contre ces idées-là, d'apporter une contradiction à ces idées-là, d'être là sur le terrain, qui savent être pied à pied avec ces jeunes-là?
Non, il n'y a pas suffisamment de gens sur le terrain, et au niveau des idées, le combat doit se mener au sein de l'islam, essentiellement. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que des voix, des théologiens émergent pour critiquer les doctrines qui ont une conception binaire du monde, pour le dire simplement. Mmh. Mais au-delà des idées, il y a les pratiques qu'on peut condamner, effectivement. Il y a des éléments matériels qui peuvent permettre de fermer une mosquée. Juste un ordre de grandeur pour que ce soit clair pour les auditeurs, il y a à peu près 2300 mosquées, lieux de culte musulmans en France. Il y a eu moins de 20 fermetures de mosquées pendant l'état d'urgence, et je crois 4 depuis le vote de la loi du 30 octobre 2017.
Et en même temps, s'il n'y en a pas plus qui pose problème en soi, est-ce qu'il est significatif ce chiffre, en fait, réellement?
Le salafisme, on a du mal à le mesurer,
c'est ça.
Parce qu'on a un problème aussi de statistiques en France, on ne fait plus de statistiques religieuses ethniques depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est sans doute très bien, mais ça pose aussi un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'on avance un peu à l'aveuglette. On estime que le nombre de salafistes en France est autour de 45 000. Pour une communauté musulmane qui se situe entre 4 et 6 millions d'individus. Donc c'est une petite proportion.
Charlotte.
Et certes, se pose la question des mosquées, mais c'est loin d'être le seul lieu de radicalisation en France. On le sait, on a parlé des prisons, il y a les réseaux sociaux, Internet, etc. La radicalisation, ça peut se faire tout seul dans sa chambre. Ça peut se faire pour beaucoup en prison, parce qu'on le sait, ce sont des viviers de radicalisation. Tout ne se passe pas du tout autour des mosquées.
Dans les prisons, moi j'ai pu constater, par exemple, que les détenus qui étaient radicalisés refusaient, par exemple, de rencontrer l'aumônier musulman. Et donc, moi, j'étais tout à fait favorable à renforcer le nombre d'aumôniers musulmans dans les prisons, parce qu'effectivement, on a des détenus qui sont de confession. Mais souvent, ceux qui sont radicalisés disent, en plus, ce ne sont pas des vrais musulmans. Vous voyez, c'est un discours qu'on entend. Il y a le discours, le complot également. Donc, je crois qu'il faut absolument travailler sur ce sujet-là. Et ils rejettent, bien sûr, toutes les institutions qui sont organisées. Mais on peut l'observer également dans les villes où ceux qui sont auteurs des attentats ont fréquenté peut-être à un moment donné les mosquées, mais pas forcément. Et donc, moi, je veux pas lier ça aux mosquées. Je crois qu'il faut qu'on soit très républicain. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté de conscience. Il faut maintenir cette liberté de conscience.
Rapidement.
Ouais, très vite, un petit mot sur les mosquées. Dans les procès que j'ai vus, souvent, quand il y avait radicalisation dans les mosquées, ce n'était pas du fait de l'imam. C'était pas forcément une mosquée radicale, c'était un petit groupe qui s'agrégeait au sein de la mosquée.
Absolument. Périphérie.
Bonsoir, Julien.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Julien. Vous avez attendu longtemps. Merci beaucoup.
Oui, je voudrais juste revenir sans répéter ce qui a déjà été dit par l'auditeur précédent. Mais c'est la question des moyens mis sur le traitement de la question sociale. Et je ne pense pas qu'investir dans les quartiers plusieurs millions dans des bâtiments avec des programmes en rue pour faire de l'affichage, ça soit la bonne solution. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y a des choses qui sont faites comme de l'affichage dans ces quartiers-là, mais derrière, il n'y a aucun moyen humain. C'est-à-dire qu'il y a les réponses techniques, hein, et il y a les réponses humaines. Et à un moment, ce qu'il faut apporter aux gens, c'est des réponses humaines. Sinon, ils se tournent vers forcément la réponse humaine qu'ils ont au plus proche. Et si c'est l'imam qui est à côté, c'est l'imam qui leur apportera les solutions. Si c'est l'extrême droite, ils se tournent vers l'extrême droite. La question, c'est le traitement de ces de ces quartiers-là, et plutôt qu'une réponse technique qui n'apporte rien, il faut des réponses humaines.
Merci beaucoup, Julien. On y viendra d'ailleurs aux réponses techniques peut-être, mais effectivement, ça va dans le sens de ce que vous disiez, Christophe Rougier, réponse humaine avant tout. Réponse humaine, ça veut dire des gens, mais ça veut dire aussi des profils pour vous aider, vous, sur le terrain.
Tout à fait. Mais le problème que nous avons avec ces quartiers, c'est qu'ils sont refermés sur eux-mêmes. Personne à Carcassonne ne va dans le quartier d'Ozanam. Personne à Toulouse ne va dans le quartier du Mirail, où on a laissé se développer sur cette radicalisation. Mais en même temps, où on a aussi, parce qu'on espérait peut-être qu'avec le fait religieux, on ait moins de problèmes de délinquance, moins d'explosion des cités. On a laissé faire ça. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quoi ? Un lien très important entre cette radicalisation, mais aussi les narcotrafiquants. Et donc, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un renseignement criminel qui permette de démanteler ces terroristes, comme on le fait pour les réseaux de stupéfiants, avec les mêmes méthodes d'investigation. Parce qu'on a un lien très fort sur place entre les trafiquants, mais aussi les clubs de sport, la périphérie des mosquées. Et tout ça, ça fait un phénomène qui gangrène ces endroits qui sont fermés sur eux-mêmes. Et il faut pouvoir y rentrer, il faut des aides, des personnes, mais aussi une lutte efficace avec un renseignement typé vraiment pour ce type d'individu.
Joachim Peillot.
Ce que dit l'auditeur n'est pas inexact. Effectivement, l'ANRU, c'était une bonne chose, mais moi, j'ai vécu ça, j'ai mis en place un programme de réhabilitation, mais parallèlement, on a mis en place un nouveau centre social, une nouvelle médiathèque, des nouveaux services publics dans le quartier, et je crois qu'effectivement, la présence humaine paraît fondamentale. L'accompagnement également des jeunes qui quelquefois se posent des questions. Mais je crois que c'est deux choses différentes. Il y a la lutte, effectivement, contre cette doctrine, et puis d'un autre côté, il y a la présence humaine à travers les services associatifs et les services publics. C'est exact, mais ça n'explique pas le passage à l'acte. C'est autre chose, le passage à l'acte.
Mais est-ce que ça veut dire que toutes les réponses techniques sont là, en fait ? Est-ce qu'il manque une réponse technique ou pas ? Quand on nous dit il faut rouvrir l'état d'urgence, il ne faut pas rouvrir l'état d'urgence, etc. Si on réfléchit à plat, est-ce que les outils techniques, finalement, nous les avons tous ? Alors, il manque des outils humains, peut-être. Peut-être qu'il manque des profils, mais est-ce qu'on a tout ça, en fait ? Est-ce que ça suffit, finalement, ce que nous avons, Marc Ecker ?
Je pense qu'il y a un arsenal, quand même, maintenant, assez robuste. Pour ce qui est de la sécurité, même s'il y aura toujours des personnes qui passeront à travers les mailles du filet, il me semble qu'on est assez bon. Il y a effectivement des attentats qui sont déjoués très régulièrement, une quinzaine sur 2017 uniquement. Le vrai problème, il est politique, c'est sur la radicalisation. Je pense que sur la lutte contre le terrorisme, on a tous les outils. Sur la lutte contre la radicalisation, on a beaucoup plus de mal parce qu'on ne sait pas agir sur les cerveaux.
Et on ne comprend pas peut-être toujours, Joachim Peillot, vu qu'il les avait vus en prison encore une fois, est-ce qu'on comprend ce phénomène de radicalisation qu'on a découvert il y a combien, on va dire 5 ans, dans le meilleur des cas, peut-être même 4.
Si vous voulez, nous ne sommes pas dans une guerre traditionnelle. Parce que dans une guerre traditionnelle, vous avez les uniformes. On voit les ennemis, là on ne les voit pas. Les ennemis de la République, les ennemis de nos valeurs, on les décerne pas. C'est protéiforme. En plus, ils dissimulent facilement dans la société. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Bon. Et donc, il faut absolument une prise de conscience. Il faut un travail très fin sur les territoires. Vous avez, moi j'ai vu, je vais vous donner un exemple concret, je vais être très rapide. Un jeune qui était écroué pour une affaire criminelle de 17 ans, qui n'était pas du tout croyant, aucune religion. Et je vais dans sa cellule un jour, il me dit, ça y est, je me suis converti. Et je suis proche du GIA, il me disait. Il ne savait pas pourquoi, il avait 17 ans et demi. Bon, parce qu'il avait été influencé, et j'ai appris après coup, par un leader qui était écroué dans le même quartier que lui. Voilà. Et donc la contagion, elle est redoutable.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Téléphone Sonne en partenariat ce soir avec France 2. Je vous le redis qui, demain soir, propose une émission avec Julien Bugier. Ça se passe à 22h35. Ça s'appelle Questions directes. Et les questions, précisément, comment la France peut-elle éviter de nouvelles attaques? Comment surveiller les fichiers S? Comment lutter contre le radicalisme? Ce sera donc demain sur France 2 à 22h35. Portez-vous bien.